Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus Kikinkou, le magazine de la moto tous les dimanches de 11h à midi et demi. Une fois n'est pas coutume, nous sommes le deuxième dimanche du mois de décembre et nous accueillons nos motards militants. Je vais commencer tout de suite par le correspondant local de Motomag, j'ai nommé Christophe. Bonjour Christophe.
Bonjour Log, bonjour à tous.
Tu vas revenir je crois sur le sommaire du Motomag de décembre-janvier.
Voilà, alors c'est un numéro double, hein, effectivement, période de fête, Motomagazine se met en trêve de Noël, trêve de Nouvel An. Et donc un magazine de deux mois qui revient, pour deux mois plutôt, qui revient sur le salon, un magazine hivernal. On verra, alors ça tombe bien, notre ami Jean-Yves, pratiquant fervent, on va nous aider à décrypter un petit peu tous les événements. Et
avec des bons conseils
et les équipements,
hein, pour bien rouler comme il faut en hiver.
Et les trucs aussi.
Et des trucs,
pour
bien
affronter
sûr.
Des
trucs
qui vont bien. On ne part pas une hivernale en tongs et baskets.
Voilà. Et c'est pas la peine de prendre la bouteille de whisky, l'alcool ne réchauffe pas.
Ah bon.
Pourtant, il y en a beaucoup qui le font.
Mais ça, c'est pour la convivialité, voilà. C'est pour autre chose. Voilà. On parlera également, je crois, d'idées cadeaux, c'est ça, dans le.
Alors bien sûr, je parlais de la trêve hivernale, mais donc Noël, Nouvel An, c'est le temps des cadeaux. Alors si vous voulez faire plaisir à votre compagnon ou votre compagne, parce qu'on va parler des compagnes,
voilà,
des pratiquantes.
La moto féminin,
voilà.
C'est ça,
tout,
la moto
tout à fait.
Féminin.
Y a vraiment.
Avec un nouveau magazine spécial femme motarde.
Ah, n'en dis pas trop. On va l'effeuiller tout à l'heure.
Le magazine, hein, le magazine. C'est chaud aujourd'hui, c'est chaud. Il y aura également un reportage sur le Café Racer Festival qui a eu lieu en Allemagne, c'est ça?
Voilà, alors c'est effectivement, quand on regarde au-delà des frontières, on trouve toujours des événements qui sont pas très fréquentés d'ailleurs par les Français.
Et enfin, donc, j'ai vu qu'il y avait quand même quelques préparateurs qui s'y distinguaient.
Oui, mais au niveau des participants, quand je dis des participants, c'est des visiteurs, et pourtant c'est gratuit, donc c'est quand même, vu la qualité du programme et donc du plateau, c'est vraiment un déplacement à faire, c'est à 2 heures de Strasbourg, et donc on reviendra effectivement sur la présentation qui en est faite dans les pages du journal.
Super. Ensuite, comme tu le disais, il y a Jean-Yves Ballois de la FFM qui notamment est un motard qui roule en hiver.
Oui,
salut Jean-Yves.
Toujours, salut, bonjour, bonjour tout le monde. Oui, effectivement, le motard hibernatus, c'est pas un motard estivus.
C'est pas le même.
C'est pas le même du tout et c'est pas les mêmes bécanes surtout. C'est beaucoup plus intéressant en hiver qu'en été. Ouais.
Tu reviens des 1000 vaches, c'est ça?
Je reviens des 1000 vaches authentiques, mais alors là, je dois vous annoncer une très triste nouvelle, c'est que les 1000 vaches ne sont plus hivernales.
Ah oui, il fait trop chaud maintenant.
Voilà, il fait trop chaud. Ouais, il y avait un soleil magnifique, ciel bleu.
C'est pas
il faisait moins 3, mais bon. Ça,
c'est pas pour rien qu'il y ait la COP21 en ce moment à Paris. Ouais. Hein.
Donc, t'as pas réussi à givrer les moustaches.
Non, même pas.
Oh, je crois que t'as pris quelques interviews, donc on pourra écouter tout à l'heure de participants.
Justement, oui, j'ai essayé de varier les interviews. Alors, bon, comme c'était ma première fois, j'avoue que c'est pas les premières fois sont jamais les plus enthousiasmantes. Donc, il y a eu quelques petits problèmes techniques, mais il vous reste quand même de la matière.
D'accord, on écoutera ça. En milieu d'émission, on retrouvera notre ami Guy Dafédé, qui reviendra sur le contrôle technique de roues motorisées. Et ensuite, en fin d'émission, on aura Daniel, de la Fédération des Bikers de France, qui apportera un certain nombre de sujets, comme le toy run de la FBF, mais aussi les 5 ans de la FBF, le tatouage chez les bikers, et les talentueux préparateurs custom de la région, parce qu'il y en a pas mal. Et puis je terminerai ce tour de table en citant bien entendu à la technique et à la programmation musicale monsieur Laurent Rodier.
Bonjour à tous, c'est parti.
Musique. Bon petit morceau de musique un dimanche matin, hein, c'est pas mal, non?
Ouais, c'est génial.
Donc on parlait moto avec Motomag de Christophe.
Et oui, Motomag qui revient sur les événements tragiques il y a juste un mois, hein, ce fameux vendredi 13 novembre. Nous étions en réunion d'association, je ne sais pas si vous vous souvenez, effectivement on a appris les nouvelles à ce moment-là. Donc Jean-Pierre Théodol, rédacteur en chef, qui revient donc sous le titre « Solide comme le rock ». Sur ces tragiques événements, on a tous dans notre entourage en fait un ami quand on connaît pas quelqu'un personnellement qui est passé ou ceux malheureusement qui aujourd'hui vivent avec, parce que c'est ça aussi, il faut se rappeler qu'il y a eu quand même plus de 200 blessés et donc l'entourage de ces personnes qui doivent maintenant vivre avec cela. Et donc Jean-Pierre Théodore qui revient là-dessus pour rappeler comment la moto est symbole de liberté, la vie continue, la menace ne doit pas nous empêcher de penser, de construire, de rêver. La pratique de la moto, c'est ce symbole de liberté, dit-il, et plus encore quand ce sont des femmes qui en tiennent le guidon, n'en déplaise aux obscurantistes de tous bords.
Bien
donc, effectivement, un dessin illustre d'ailleurs cet édito, tu le rappelais tout à l'heure, Luc, hors antenne, une femme qui donc roule sur une de triomphe avec une symbolique de liberté, et on reviendra d'ailleurs, je reviendrai sur le sujet de la pratique de la moto par les femmes. Donc, le salon, qui a été largement développé la semaine dernière par les collègues. Donc,
et d'ailleurs, on peut dire que Nico, Lamiche et Pascal y sont allés, hein, et ils ont fait de très belles photos avec quelques commentaires que vous retrouverez sur notre site, hein, k1c.free.fr, sur la partie forum accessible au public, ça s'appelle On y était.
Voilà. Et donc, alors, il faut rappeler que le magazine est sorti avant le salon. Qu'il était une invitation à y aller. Donc, il présente bien sûr toutes les nouveautés, puisque en fait, les marques. Alors, 391 marques présentes au salon. C'est comme les fromages en France, hein, c'est un par jour.
Mais le groupe Piaggio n'y était pas parce qu'il y avait le salon de Milan juste avant et puis que ça coûte cher, quoi.
Ah,
oui, puis, voilà. Alors, c'est plus intéressant pour eux quand même de faire ça à Tom.
Tu m'étonnes.
Alors, Piaggio, ça me permet d'ailleurs de rebondir sur ce que tu dis. Piaggio, qui est leader des ventes en France avec le MP3, SLT500. Voilà.
Une grosse cochonnerie, c'est ça, un truc pas beau du tout. Ouais. Bon, t'as vu qu'il y a Yamaha aussi qui est en train de sortir une MT-09 affublée en 3 roues, un truc bien moche et tout.
Tout à fait. Alors, sur les chiffres d'ailleurs qui sont rappelés dans le journal concernant les ventes, donc en France, malheureusement, on ne franchit pas encore le cap au moment où on donne les statistiques, le cap des 200 000 motos vendues et scooters immatriculés en France, avec une baisse de 2,6, alors que globalement, en Europe, les ventes augmentent de 4,4%. Mmh. Donc une donnée chiffrée.
Enfin, d'un autre côté, si c'est pour voir encore plus de scooters qui conduisent comme des pieds, c'est peut-être pas très utile.
Oui, alors en matière de scooters, donc justement, dans les pages de Motomag, vous retrouverez toutes ces motos et ces scooters avec donc des présentations. Et donc, il se trouve, cette semaine, j'ai été appelé par BMW pour aller essayer le nouveau 650 GT. Oh. Alors bon, je sais bien que je suis avec ma vieille mamie de 30 ans pratiquant BM, mais je ne savais pas que j'étais dans les fichiers.
Donc, ça, tout le monde est dans les fichiers.
Vous n'avez pas été
appelé. Non, mais c'est un scooter, ça, non?
C'est un scooter.
Ah, c'est pour ça. En fait, c'est pour ça qu'on n'est pas dans les fichiers.
D'accord. Bon, mais je vois pas comment je pourrais être dans les fichiers avec mon scooter.
Électrique.
Bon, enfin, passons. Donc, la part belle dans la présentation des nouveautés au vintage. Et effectivement, on sent que c'est une tendance de plus en plus affirmée, hein, donc sortir des motos. Et alors, Luc, c'est pas toi qui va me contredire, hein, avec la superbe photo de la bonne ville.
La T120.
La T120, alors rien que le nom déjà, ça fait référence.
C'est bien une marque qui a le droit ou qui a la légitimité de puiser dans son passé pour concevoir de nouvelles motos.
Voilà, et on sent vraiment, de la part du rédacteur, un coup de cœur pour la déclinaison, puisqu'en fait, la bonne ville se décline dans plusieurs modèles. La version black, là, elle est vraiment superbe.
Et nos amis là, qui sont allés au salon, l'ont vu de très très près. Et effectivement, c'est un détail de finition, mais alors exemplaire, quoi.
Voilà. Et donc, ils ont eu le bon goût aussi de sortir un modèle plus accessible, hein, donc la Street
gamme,
Twin 900, qui est en fait l'entrée de gamme.
Voilà, mais pas au rabais.
Pas au
rabais,
entrée
de gamme, mais pas au rabais.
Tout à fait, qui est destiné en fait aux préparateurs.
Hein, donc aussi, quand tu peux personnaliser. Quoi.
Et puis, qui se positionne évidemment à un tarif inférieur d'un peu moins de 10 000 euros par rapport à la bonne ville. Alors, toujours dans le vintage, BMW, hein, qu'est-ce qui reste aux préparateurs, pourrait dire le rédacteur de l'article, puisqu'en fait vous pouvez acheter quasiment une moto. Alors là, c'est vraiment une page de scrambler.
La
90T ou T. Et puis, on passe Ducati, Moto Guzzi, Scrambler, Triumph, qui nous sort donc la Truckstone en version
1200 toujours comme le...
alors la 1200 mais qui sort deux déclinaisons. Et donc c'est une tendance un peu générale en fait, à partir d'un modèle plutôt à partir d'une base on sort des modèles effectivement qui se déclinent. Et donc Triumph fait très fort avec le Tiger 1200 puisqu'en fait sur la base de cette moto il sort 6 équipements différents avec des niveaux d'équipements plus ou moins haut de gamme. Alors toujours de bonne gamme, mais avec du haut de gamme, et donc qui propose 6 déclinaisons possibles de sa machine.
Il est à noter d'ailleurs que c'est dommage qu'il ne fasse pas évoluer un peu la T-Bird et la Rocket, qui sont un peu les oubliés de l'histoire chez Triumph.
C'est vrai qu'en termes de custom, il n'y a pas vraiment de nouveautés cette année.
Alors, justement, ils ont amplifié énormément la gamme Bonneville,
classique,
Truckstone,
classique.
Mais très peu les vaisseaux amiral de la marque.
Voilà, j'espère que Triumph t'écoute.
J'espère aussi.
En tant que monsieur client privilégié de Triumph, il me semble que tu devrais faire remonter l'info.
Ouais.
Alors, autre info, c'est quand même ça un événement aussi, BMW qui sort une 300 cm3. Donc c'était une tendance qu'on avait déjà vue chez KTM.
Mais faite en Inde aussi.
Absolument, faite en Inde, mais qui sont des motos mondiales pour un marché mondial. Alors Bon, en France, ça peut intéresser les permis à deux. Donc, on verra le succès qui sera réservé ou non à cette tendance. Mais c'est quand même un événement. Et puis, tu en parlais tout à l'heure, Yamaha qui sort dans sa série MT. On a eu la 7, la 9, la 10 maintenant,
la 10, ouais.
Et la 3. Ouais. Je ne sais pas si vous y retrouverez, mais...
C'est comme chez moi, j'ouvre. La MT-09 est déclinée aussi en XSR, tu vois,
oui.
comme le 700. Donc là, en 900, avec les couleurs de Kenny Roberts, moi, je trouve qu'elle est pas mal. Il faudrait l'essayer, le 3 cylindres est sympa.
Voilà. Et donc, vous retrouverez également, hors page salon, là, d'un match qui reprend donc, des présentations de modèles de marques différentes, mais une marque qui, sur une même plateforme, et c'est le concept automobile, décline deux modèles avec deux tendances, deux pratiques différentes. Donc, vous avez Harley, donc dans la rubrique Bagger, avec sa Street Glide spéciale, et sa Rodkin spéciale. Vous avez en routière, donc j'en parlais tout à l'heure, la Kawasaki donc en version V6 650 et puis le R6F et puis la MT7 et la MT9 donc qui en roadster pour vous permettre donc une pratique correspondant à vos aspirations. Donc voilà un petit peu, vous redécouvrirez tout ça en parcourant le journal.
C'est vrai qu'il y a plein de trucs intéressants, il y a beaucoup de nouveautés cette année. On va écouter un petit morceau de musique et on se retrouve tout à l'heure, Christophe.
Pas de problème.
for doing wrong.
Vous êtes bien sur Radio Campus où la bonne musique fait bon ménage avec la pratique de la moto. Christophe de Motomag.
Oui, alors je termine sur les modèles. Alors les modèles neufs donc, de salon, je les ai passés rapidement en revue. Vous savez que depuis le début de l'année, Motomagazine a inauguré une nouvelle rubrique Nostalgie. Donc ce mois-ci, c'est la Ducati 916 Strada. Motomagazine de l'époque, on disait une machine de course, une machine d'exception, une machine de rêve. Il se trouve que le rédacteur de cet article est toujours chez Moto Magazine et quand il voit ça, il a encore des étincelles dans les yeux. Alors, j'avais contacté Bertrand, l'ex-boss de Motochange, Béthune, dans les années 90, qui en a possédé une. Donc, il m'a assuré, alors on ne peut pas l'avoir à l'antenne aujourd'hui, mais il m'a assuré que dans les prochaines émissions, il serait tout à fait prêt à venir nous parler des motos qu'il a connues, qu'il a vendues. Et sur cette rubrique nostalgie, donc je pense qu'on entendra reparler des machines qui nous ont fait rêver dans ces années-là.
Surtout qu'il roule en plus en moto ancienne.
Alors voilà, en plus, il m'a proposé d'intervenir. Donc il a raccroché, puisqu'il n'exploite plus son affaire, mais il a replongé, si on peut dire, en courant donc en ancienne sur une Kawasaki 1000. Et donc il pourra éventuellement aussi nous parler de son engagement dans cette discipline. Voilà. Alors, rubrique occasion également. Hein, ça fait de longue date dans Moto Magazine, le passage à la moulinette d'un modèle. Donc, cette semaine, ce mois-ci, la Suzuki 650 Vestrom. Donc, une machine au gabarit imposant, moyenne cylindrée, mais plein d'atouts qui reste une excellente affaire en occasion. Je disais tout à l'heure en rantaine que je connais des copains qui ont fait l'accord. Ce sont des machines qui étaient proposées à la location, donc robustes, fiables. Alors bien sûr,
les premiers millésimes avaient un design qui était quand même pas très attrayant.
Voilà. Ouais. Alors bon, bah oui, effectivement, mais c'est toujours un modèle aujourd'hui qui est en vogue, enfin à l'affiche tout au moins, avec bon ses défauts et ses qualités. Alors tout est passé au crible, et c'est justement l'intérêt de cette rubrique occasion, c'est de vous permettre de faire le bon choix, la machine, de faire attention au point d'attention justement pour acquérir la machine.
Quand tu sais que tu peux en trouver à 1500 euros sur le marché, c'est vrai que c'est intéressant, quoi.
Voilà. Hein, donc, on vous donne d'ailleurs le budget d'entretien, éventuellement de remise en état, les pièces en casse que vous pouvez trouver donc avec leurs tarifs, les conditions d'assurance et puis toutes les caractéristiques techniques de la moto, hein, qui a le sens de l'accueil, qui possède un niveau d'équipement et qui permet de partir loin sans se ruiner.
Ouais, les trails routiers de l'époque, quoi. Ouais,
voilà. Alors, si 1500 euros, bon, ça reste encore un budget important pour un cadeau de Noël. Donc,
oh, la transition.
Si vous voulez vous faire plaisir à moins, pas de problème.
Ah ouais, dit comme ça, c'est vrai que le GPS là à 400 euros, ça coûte vachement moins cher du coup, c'est ça.
Voilà.
Ouais, bah, on peut trouver des motos de ce prix-là.
Oui. Bon, après, en mettant les...
Ah bah, faut mécaniquer.
Exactement. Hein. Alors, vous savez mon goût pour l'innovation. Donc, je vous ai décroché quelques produits, moi, qui me plaisent bien. Alors, bon, je vais commencer déjà par ce qui va bien. Les efforts que font les fabricants pour rendre leurs produits accessibles. Et je pense à la GoPro, hein, la caméra embarquée. Bon, la GoPro qui a toujours été leader sur son produit, sur son marché. Aujourd'hui, il nous sort un modèle plus accessible. Bon, à moins de 300 euros. Bon, voilà, ça a le mérite d'être signalé. Ensuite, j'ai trouvé dans la taille d'un smartphone un super chargeur. Donc ça, alors mini chargeur, petit mais il fait tout. Hein, il peut même vous démarrer la moto. Donc, que demande le peuple ?
Avec le kick, non, quand même pas.
Il est à noter que quand la température baisse, les capacités de batterie décroissent fortement. Ah, que donc, ce soit pour la batterie de la moto, ou la batterie du téléphone, ou la batterie du smartphone.
D'accord. Bon, ben voilà. Donc, alors, je feuillette. Je trouve original, on parlera des équipements hiver tout de suite après. Mais vous pouvez déjà vous faire offrir donc, le gilet pour vous rafraîchir. Alors, évidemment, ça, c'est
un équipement pour les masos.
Ça, c'est un équipement pour l'été. Mais bon, pourquoi pas se le faire offrir à Noël, hein, en attendant mieux. Alors, c'est Macma, donc un fabricant hollandais, qui nous avait déjà gratifié d'une veste moto qui est parfaitement réfléchissante. Je ne sais pas si vous vous souvenez, une veste grise, mais en fait, c'est du rétro-réfléchissant 100%.
Ça éblouit, je peux vous dire.
Exactement.
Voilà. Les yeux.
Alors dans les trucs plus anecdotiques, j'ai relevé aussi cette lampe à 10 €. Alors on dirait une mine unipersonnelle. C'est assez saisissant. Donc c'est des petites LED. Ça a la tête d'une mine. Hein, on peut pas dire autrement.
Tout à fait.
Avec ses aimants pour la mettre partout et orienter donc les LED. Bah, je pense qu'à l'authentique, ça aurait été peut-être utile.
Oui, mais les tentes ne sont pas très magnétiques, donc on peut pas décoller.
Ah oui. C'est vrai, c'est fini la canadienne avec les mâts en ferraille. Terminé. Maintenant, tout est en fibre.
Et qui pesait 30 kilos.
Ouais. Mais sur la moto, bon, je comprends, à pied, mais moto...
Rapport poids-puissance, c'est important.
Oui, c'est vrai. Bon, ceci dit, sur les routes enneigées... Quoique non, c'est vrai, tu nous disais que il y a plus, c'est
tout full camp.
Ouais, tout full camp, oui. C'est plus ça, mon bon monsieur. Alors voilà. Bon,
on sinon s'il y a des dames qui nous écoutent, il y a aussi, moi j'ai vu en idée cadeau, un caleçon, un FFMC.
Alors bien sûr.
Oui,
alors
et puis il y a la gamme Triomphe aussi en sous-vêtements féminins.
Alors vous pouvez être habillé FFMC des pieds à la tête, hein, parce que vous commencez par le tour de cou. Effectivement, on descend. Alors après, je sais pas, hein, j'ai pas toute la gamme. Là, je pourrais pas vous faire la description.
Ah, il y a le t-shirt aussi.
Ouais, mais ça, le caleçon, il est en bonne place, effectivement. 25 €. Et il est vendu à la boutique motomag.com. Donc, il n'y a pas de problème. Vous trouverez...
Des idées pour toutes les bourses.
Voilà.
Alors, des caleçons pour toutes les bourses.
Bon, et puis, je sais pas, les chaussures, on en parle. Alors, bon, on parle rapidement des tenues d'hiver. Hein, donc, c'est la saison, maintenant, c'est pas encore la température. Les fameuses bottes Sorel, hein, qui vous permettent de tenir le choc jusqu'à moins 50. Bon, alors, attention, étanches, mais pas respirantes. Hein, donc, vous assumez.
Ah ouais. Alors, dormir tout seul dans la tente.
Voilà. Donc, après, tous les équipements, alors des pieds en tête, hein, blousons, pantalons. Tablier. Alors, je sais pas si vous roulez tablier, vous ou pas.
Non, ça n'existe pas pour la roquette.
Ah, voilà.
Il n'y a pas la taille.
Bon, alors, vêtements chauffants. Hein, donc, tout est chauffant. Hein, les gants, les gilets, la selle, les poignets.
Chaussettes.
Les chaussettes chauffantes aussi. Mm-hmm. Bon, il faut une batterie qui tienne la route. Alors. Mais ça va.
Faut une remorque avec trois batteries derrière.
On a le mini chargeur. Hein, donc, pas trop serré. Hein, ça, c'est une recommandation. Spécialiste là, Jean-Yves.
Pas trop serré et pas trop étanche surtout.
Voilà. Et puis bon, on connaît tous le coup du journal.
Ouais.
Alors bon, ça c'est moins.
T'as essayé de rouler avec le dernier motomag pour voir si c'était étanche?
Non. Je sais pas avoir tatoué sur la poitrine.
Mais le
journal japonaise.
Le journal, ça c'est du papier glacé.
Je plaisante, c'était pourri. Hein.
Bon, par contre, vous avez le protecteur, insolite, protecteur pectoraux. Bon, alors j'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit, à portée, ça doit pas être.
Ouais, ça doit pas être pratique. Hein, non.
Alors bon, j'ai parlé de la sous-veste, les manchons, enfin tout est chauffant. Bon, donc on va pas avoir froid, mais de toute façon, on n'a pas froid, hein, Jean-Yves. Tu nous raconteras un peu ton épopée aux mille vaches. On peut pas dire que t'as eu froid.
Voilà. On va passer un petit morceau de musique,
ouais, hein,
et on se retrouve juste après.
Absolument. Thank you.
Dans les idées de cadeaux et les équipements divers, il y a aussi des modèles pour les femmes. Il y en a une qui s'appelle Lady Venture, je crois, d'ailleurs. Christophe.
Alors, effectivement, dans les idées cadeaux dont je parlais tout à l'heure, il y a une veste féminine. Et donc, tu évoquais effectivement la présentation d'un portrait. Alors voilà, il faut que je retrouve...
La bonne page.
Je ne connais pas tout par cœur. Hein, sous le titre « La moto sans phare », donc la présentation de Joël Guéné. Donc une femme qui a eu un break, en fait, elle a connu son copain sur une moto, mais comme ses parents étaient assureurs, la moto c'était danger, point. Donc terminée à 18 ans, blackout complet, jusqu'à ses 40 ans, enfin aux 40 ans de son mari, à qui elle a offert une Honda 125 Rebelle. Comme dit l'article, entrée du loup dans la bergerie. Et donc, cette femme donc, qui travaillait avec une situation professionnelle tout à fait sympathique, puisqu'elle était chez Yves Saint Laurent, elle a quitté donc elle avait 60 personnes donc, en recherche et développement sous ses ordres. Et donc, à l'occasion d'une restructuration, elle a complètement changé de vie. Elle a pris goût à la moto quelques années avant et elle a décidé de vivre de sa passion nouvelle pour la moto en créant donc Lady Zigzag, société donc de vêtements, de boutiques, d'équipements dédiés au féminin.
À Versailles, c'est ça ?
Donc, société basée à Versailles. Alors, évidemment... perte de salaire, vous imaginez, par rapport au confort qu'elle pouvait avoir avant, des heures à n'en plus finir, et puis surtout dans un contexte économique tendu, hein, puisque SDS, qui était la première boutique d'équipement féminin, venait de fermer.
C'était à Bastille.
Voilà. Mmh. Hein, donc un beau parcours qui vous est présenté. L'occasion aussi de parler de la presse magazine dédiée puisqu'en fait, c'est le number one. Alors, c'est simple, tous les mois, là, je suis en train de vous annoncer une nouvelle publication. vous vous rappelez, en début de l'année, Motomag qui reprend Moto Crampon, donc ça, c'est pas une nouvelle. Maxi Photo, le mois dernier. Et donc, ce mois-ci, c'est Femmes et Motardes. Hein, donc, alors, on n'a pas eu l'occasion d'avoir un numéro dans les mains, mais tout à l'heure, là, que tu passais en revue l'édito, la présentation donc, du support. Comme là-dessus. Alors, on vous présente donc Fabienne Sintès, une journaliste de France Info qui vient tous les jours en moto. On vous dit comment rester craquante après la route.
Donc, parce qu'avant, c'est pas la peine, c'est ça ?
Il faut absolument.
Avant, t'as peur et après, tu la connais plus. Alors.
Il faut absolument que Patricia, le mois prochain, plutôt, nous annonce effectivement son commentaire sur la lecture de ce magazine.
Ça sera le motard lecteur.
Je l'ai feuilleté rapidement dans une grande surface et un truc m'a choqué, c'est qu'il y avait un horoscope à la fin.
Franchement, c'est normal. Si c'est mauvais signe, tu prends ta moto.
Alors, moi, je sais pas si je peux me permettre de leur donner un petit conseil. Peut-être qu'il faudrait un peu d'hommes dans la rédaction du journal.
Pourquoi c'est écrit que par des femmes ?
Ah, je sais pas. Ah ouais. Je sais pas. Mais quand j'entends la remarque de Jean-Yves, bon, je demanderai à la rédaction.
Et nous, on veut bien à la sortie. Quoi.
Tu leur dis, on veut bien participer, hein, pas de problème.
Fais un test produit, oui.
Voilà.
Donc, on va tester les phares imperméables.
Et puis, dans les journaux féminins, il y a toujours des expressions d'hommes. Hein,
parce que, heureusement.
Donc en moto, pourquoi pas.
Hein. Des expressions d'hommes.
La femme est un homme qui s'ignore.
Non. L'homme est une femme comme les autres.
Référence culturelle.
Alors, justement, on parle des femmes. Et hors antenne, tout à l'heure, je parlais d'un autre sujet donc, que j'aborde maintenant, qui est abordé dans le journal. Concernant le contrat d'assurance.
Hein, donc on s'interroge. Est-ce que c'est plus cher pour les femmes que pour les hommes ?
Alors, je le savais pour la voiture.
Pour la voiture, c'est moins cher. Apparemment, elles ont moins d'accidents.
Mais il semblerait que ça ne soit pas même chose en matière de moto. Hein, donc, Daniel, tu nous disais que vous aviez enquêté.
Oui.
Et que, bon, alors peut-être pour certains modèles.
Oui, tout à fait. Pour des modèles un peu haut de gamme.
Voilà.
Où c'est un peu plus cher.
Ok, alors donc le travail sur le contrat, simplement question pratique, hein, pour vous rappeler qu'un contrat d'assurance, ça vit, nos motos vieillissent, nous aussi d'ailleurs, et que il est toujours utile d'adapter en fait le niveau de protection de votre moto à l'usage que vous en faites, à la valeur vénale aussi du véhicule. Hein, les assurances ne prennent pas tous en compte la baisse de la valeur vénale de la moto, et donc ça vaut le coup quand même de regarder régulièrement, hein, faire un petit comparo. C'est bien, maintenant il y a des sites internet, vous faites ça vite fait, de façon à pouvoir renégocier votre contrat d'assurance. Donc ça me permet d'ajouter que dans le Motomag, dans les pages de fin du journal, vous trouverez toujours des rubriques vie pratique, hein, sur la pratique de la moto. Donc là, les contrats d'assurance. Tout à l'heure, on parlait des hivernales et on va en parler tout de suite après avec Jean-Yves. Donc sur l'équipement, mais aussi sur la façon de s'alimenter. Hein, donc, boire ou conduire, il faut choisir. Mais de toute façon, boire, ça réchauffe pas.
Hein. Bah, sauf donc, si tu prends du thé.
Alors, oui,
du thé, ça va.
Voilà.
Du thé, le thé va te réchauffer deux fois plus longtemps que le café.
Voilà. Et donc, nos testeurs de Motomag, ils testent les motos, mais ils testent aussi, évidemment, tout ce qui est comburant pour pouvoir résister au froid. Et donc, ils vous livrent leur secret, hein, barre de céréales ou hamburger. Je vous laisse découvrir ça dans le journal.
On n'est pas trop hamburger à Kikango.
Non. Voilà là, ce qu'on peut dire sur le
très bien
du journal.
Intéressante présentation qui nous donne envie d'aller le voir un peu plus en détail. On va ensuite parler avec Jean-Yves d'Emile Vache, mais avant, on va nous écouter un petit morceau de musique.
C'est pas dit.
Ça sent le détente, c'est ça?
Ah oui, ça me rappelle la misaine, ça.
La muse.
On retrouve tout de suite Jean-Yves qui revient encore de son hivernal sans neige, hélas, mais beaucoup de boue peut-être sur les bottes.
Non, justement, pas beaucoup de boue parce que c'était vraiment un temps magnifique. Mais bon, on va recommencer par le commencement. Donc, les 1000 vaches, il y en a deux. Il y a actuellement ce week-end-ci celle de Mémac, mais le week-end dernier c'était les authentiques.
Voilà, donc celle-là s'appelle la classique, c'est ça?
Voilà.
C'est de ce week-end.
Non, c'est authentique. De ce week-end, non, ouais. c'est classique, c'est Mémac.
C'est ça, voilà. Mémac. Et celle où tu es allé, c'est l'authentique.
C'est l'authentique, donc qui ont fait sécession, mais qui sont restés dans un esprit plus pur.
Et à l'endroit où ça se faisait avant, quoi, c'est ça?
Et non, justement.
Ah, la déménager, ça.
L'intérêt, l'authentique, c'est que, bon, c'est dans un... C'est pas le trou du cul du monde, mais c'est pas loin. C'est dans les poils environnants. C'est du côté de Arde-sur-Couze. Alors, personne ne connaît, mais c'est près de Saint-Germain-de-Lambron. Personne ne connaît non plus.
Mais ça sonne bien.
Mais c'est bien. Redis-le.
Et c'est au sud d'Issoire.
Issoire, on a couru à Issoire, en enduro.
Pour ceux qui ont des lettres, Issoire et Ambert, pour Marcel Aimé, je vous conseille de relire le passage. Mais passons. Donc, on arrive là, Arde-sur-Couze, quasiment à 3 heures, après avoir fait les courses à Issoire, parce que, sur le plateau, il y a une tente, ils servent des boissons chaudes et froides, et des hot dogs, mais il faut emmener sa nourriture.
C'est une concentre à l'ancienne, quoi.
C'est une concentre à l'ancienne, il faut vivre en autarcie. Donc, il faut arriver assez tôt pour pouvoir planter la tente et voir qu'on n'a pas oublié de piquer, parce que la nuit se couche, enfin, arrive à 4h30, à peu près. Il faut aussi se trouver des compagnons, parce que vous avez droit gratuitement à 5 bûches, et 5 bûches pour 2 jours, c'est quasiment impossible à tenir. Donc il faut absolument se grouper. Alors plus on est nombreux, plus on a un feu grand. Moi, je suis tombé sur un groupe de gars du Nord, d'ailleurs. Certains étaient encore dans le Nord, d'autres avaient émigré. Et vous verrez dans l'interview que j'ai fait, il y en a un qui est même venu, un ancien qui est venu avec la moto de sa femme. Enfin, ma fille, vous l'entendrez dans l'interview. Mais passons donc l'intro.
Alors, nous voici samedi matin. La nuit a été un peu froide. Il a dû faire moins 2. On est sur une mer de nuages. Il y a un soleil magnifique. Le ciel est très bleu. Il y a déjà quasiment 1100 ou 1200 bécanes qui sont arrivés aujourd'hui. Je suis avec un groupe du Schnorr et Toulousain. Est-ce que vous pourriez vous présenter, vous dire votre bécane, pourquoi vous êtes venu, est-ce que c'est la première fois
Ouais, Michel, 500 XEV de Toulouse, la XEV 500 uniquement l'hiver et après 1500 Goldwyn. Je suis venu au Milovache en 73, 74, 75. Et quelques années après, je suis revenu donc l'an passé en 2014 et cette année 2015.
Donc Jean-Marie, 62 balais, je suis venu avec la 125 maraudeur de mon épouse, comme ça je peux la casser et rouler sur la neige avec. Sinon je roule en GS 1200, c'est la deuxième fois que je viens et je fais de la moto depuis 40 et quelques années. Et là c'est vraiment super, super ambiance avec des gosses sympas.
On voit qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout, hein, parce qu'il y a, l'accent qui chante.
Oui, il y a l'accent qui chante. Donc il y a quand même pas mal de gars du Nord. Là, je suis tombé sur le Sidecar Club de Calais, des anciens potes. Le groupe dans lequel j'étais, c'était aussi des gars du Schnorr. Je suis tombé aussi sur un mec en Goldwyn. On s'était rencontré à une manif FFMC. Enfin bref, c'est... Mais quand même, le gros des troupes, c'est quand même du Sud. Hein. Il y a quelques mobilettes, là, on comprend qu'ils viennent effectivement du coin, mais bon, c'est très courageux de leur part, parce que grimper à 1300 mètres dans des pentes, les mecs, ils pédalaient comme des malades pour faire avancer la machine, c'était... Il n'y en avait que 4, mais ils méritaient bien la médaille.
Est-ce que c'est...
Oui, madame. Madame a deux motos Guzzi.
Deux motos Guzzi, lesquelles ?
Un Nevada et un Bellagio.
Bellagio, ah oui, c'est les récentes.
C'est les récentes.
Nevada,
ouais.
C'est en 750,
c'est ça.
Et monsieur ?
Ah, moi, j'ai un 1200 FJ attelé, et j'ai un CBF.
CBF. Et vous venez de ?
D'Albi, maintenant.
Albi, c'est combien de bornes ?
Bon, depuis 300, comme 200 ah,
donc vous êtes voisins.
Ah. Mais là, c'est la première année, parce que les deux années d'avant, on venait du centre. On était dans le centre.
Ah, Châteauroux.
Voilà.
Châteauroux.
Avant, on descendait, maintenant on monte.
Ouais, non, mais enfin, de mon point de vue, on descend toujours.
Ouais.
On descend à Paris. De toute façon, c'est bien connu, le sud commence à Amiens. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème.
Une heure à Lyon, on ne peut pas avoir sur les cyclistes.
Cette concentre-là authentique, on fait depuis le début, les trois ans.
Les trois ans.
Ouais. Et avant, on faisait les Mac.
Ouais, mais moi, voilà. J'ai fait d'abord mes Mac, et puis j'ai trouvé qu'il y avait vraiment trop de monde. Et donc,
Et puis, c'est tout le temps le même endroit.
Ouais.
Là, au moins, on voit d'autres paysages à chaque fois, même si c'est dans le même secteur. Bah, je veux dire, c'est
plus. Il y a la surprise
de l'endroit où on va être. Et Non, mais c'est vrai que c'est important.
Oui,
et
puis en plus, on sait que les conditions seront plus dures.
Voilà.
Qu'à Mémac ou. Ouais. Enfin bon, après, il y a les caprices météo, mais non, ici, on est plus haut. Quoi.
Voilà. Ouais. Ouais.
Tu en plein vent comme la dernière. Hein.
La dernière, on a souffert.
Ouais, j'y étais aussi. Il n'y a pas de problème.
Mais
bon. Bah, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite un bon retour.
Merci beaucoup.
I'm a bad, 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 bad man.
il nous met de la musique cool aujourd'hui, ouais, entraînante, c'est... mais cool.
Ouais, c'est cool. Hein,
et qu'on pourrait franchement écouter facilement autour d'un feu de bois lors d'une hivernale.
Exactement. C'est... Alors, avant d'écouter le motard de Bayonne, je voudrais donner quelques conseils pour ceux que l'aventure tenterait, parce que bon, maintenant, c'est quand même accessible à beaucoup de monde. Hein. Si vous savez rouler par moins 3, moins 5, il n'y a plus de problème, c'est à votre portée. Alors, ce qu'il faut surtout insister, c'est sur votre confort. Il ne faut jamais laisser son noyau intérieur baisser trop en température. Et si vous sentez que là, ça commence à baisser trop, il faut absolument s'arrêter puis boire du chaud. Du chaud et parfois aussi du salé. Parce que le problème, le paradoxe en hivernal, c'est qu'on a tendance à toujours bien se couvrir. Moralité, on transpire, on perd des sels minéraux et on s'affaiblit. Donc moi, je conseillerais plutôt la soupe bien salée dans les distributeurs d'autoroute. Le problème aussi en hivernal, c'est que bon, ça dure 2-3 jours. Il est quand même utile de pouvoir s'asseoir ailleurs que dans une flaque de boue. Donc... c'est le problème des bagages. Et pour ça, il y a beaucoup de choses. Il y a une chose auxquelles les motards ne pensent pas en général, c'est la remorque accrochée derrière la moto. Ça vous permet d'emmener tout le confort qu'il vous faut. Et c'est à partir du moment où la remorque fait moins d'une centaine de kilos, il n'y a aucun problème. Et vous pouvez être les rois du pétrole dans les bivouacs.
Il faut quand même des motos à laquelle tu puisses adapter hein, une attache remorque, quand même, non?
Bah, les attaches remorques, il y a des sites internet pour ça, ça coûte dans les 80-100 euros. Hein, c'est pas,
et ça adapte facilement.
Ah oui, c'est pour tous les modèles. J'ai pas la référence. Bon, moi je l'ai fabriqué moi-même, mais ça, je recommande pas ça à tout le monde. Mais il existe des fabricants d'attaches remorques. Il suffit de faire une recherche sur le internet. Donc, allons-y pour l'interview du motard
de Bayonne.
Je suis avec quelques motards qui viennent regarder ma bécane et donc j'en profite pour les interroger.
Ah, nous on vient du sud-ouest, Bayonne.
Bayonne.
Voilà, F800 GS Adventure.
En solo?
En solo, ouais, ouais.
Ah bon. Et voilà. T'arrives à tout tringler dessus?
Ouais, tout est problème. Passé dessus. Parce ça a été dur, mais j'avais mon pote avec un side, c'est bon.
Ah oui, d'accord.
J'ai dû décharger un petit peu quand même.
D'accord.
Voilà, donc on est arrivé hier.
Hier.
Non, donc que la petite nationale départementale, de Bayonne jusqu'ici.
Ouais, ça fait combien de bornes?
On avait 500 bornes.
500 bornes, c'est pas mal, tiens.
Ouais, on est parti à 6h du matin, puis on est arrivé à...
Voilà, 7h moins le quart.
Ouais, moi 6h, moi. Le temps que j'arrive chez lui, 7h moins le quart.
D'accord. Donc en une seule journée.
Ouais, on est arrivé ici à 15h.
Ah, d'accord.
Bonne route. Ouais. Et puis c'est la deuxième fois moi que je viens en mille-vaches.
En mille-vaches authentique?
L'authentique, oui.
T'étais là l'année passée?
Ouais.
Ouais,
dans le vent et le froid.
C'était plus dur. Ouais, j'y étais aussi.
On a souffert.
Il faisait moins 10 l'année passée.
Oui. Donc, l'année dernière était là aussi.
Voilà. Bon, je vous remercie et puis bonne journée. Ouais.
Oui, une autre chose très importante, pour ne pas dire vitale en hivernal, c'est le feu de bois. Parce que vous êtes dans une tente, la température à l'intérieur de la tente sera 4-5 degrés au-dessus de l'ambiance. Et donc, il faut absolument se prendre des calories. Comme on l'avait rappelé Luc tout à l'heure, l'alcool, c'est pas une source de calories très efficace. Donc, le feu de bois. Le feu de bois, le problème des hivernales, c'est que chacun touche 5 bûches avec son inscription. Et donc, il faut absolument grouper pour partager les bûches. Si vous êtes à 10, vous avez 50 bûches, et donc vous êtes sûr d'avoir un grand feu les deux jours. Et donc, j'ai été interviewé le gars qui s'occupait de la distribution du bois.
Je suis avec, qui dit hivernal, dit feu de bois, évidemment, et donc il faut gérer un sacré stock. Là, je suis justement au coin bois avec...
Besson Antoine.
Antoine.
Voilà.
Et donc, qui distribue les bûches aux motards. Et combien vous avez prévu de bûches au total?
Je crois qu'il y a une vingtaine de stères.
20 stères,
ouais,
ça fait combien de kilos? Ça c'est...
Une stère c'est 1 mètre par 10.
Ouais,
non, c'est 1 mètre de haut par 10 mètres de long. Il me semble que c'est ça.
Ah non, je pensais que c'était 1 mètre cube, l'Esther. Enfin bon, bref. Ouais. Donc théoriquement, apparemment, là, tout le monde est à peu près arrivé.
Non, non, il en manque la moitié, là.
La moitié?
Avant d'avoir peut-être 800 personnes, là, et on attend 1400.
1400, donc la réserve de bois, ça, tout sera parti, quasiment.
Normalement, oui.
Ouais, bon.
C'est le but, hein.
Ouais, ouais, c'est le but.
Ouais.
De toute façon, c'est là, il faut que ça serve. Ça peut se conserver pour l'année prochaine, mais bon.
Oui.
Cette année, c'est quand même plus doux que l'année dernière.
Voilà, c'est surtout pour manger, quoi.
Ouais, ouais.
Le bois est part, quoi.
Ok, ouais. Bon, bah, merci.
De rien.
Et on retrouve au téléphone notre ami Guy de la FFMC qui va nous parler du contrôle technique. T'es avec nous, Guy ?
Oui, bonjour à toutes et à tous.
Salut Guy.
Salut tout le monde.
Salut.
Eh bien, je vous propose de repasser un peu les éléments en information sur le contrôle technique. C'est un dossier qui est un petit peu mis en sommeil en ce moment, bah, avec les événements que tout le monde connaît. Néanmoins, j'ai vu là sur motomac.com que la FED a réussi à coincer entre guillemets le DSR, là, Barbe, Emmanuel Barbe, pour obtenir un rendez-vous pour reparler un peu de tous ces sujets. Donc il y a toujours de l'actualité sur ce dossier. Alors voilà, je voulais vous donner quelques éléments par rapport au lobby. Comment ça se passe en fait? C'est toujours intéressant d'avoir ces éléments en tête et de comprendre ce qui peut nous tomber sur le coin du nez comme ça et d'avoir donc des éléments chiffrés. Alors ça sera par rapport au monde de l'automobile, mais peu importe, on peut faire les mêmes, on peut donner les mêmes éléments, peut-être pas les mêmes chiffres, mais au moins les mêmes éléments et la manière dont ça se passe. Alors je vais faire un petit rappel. Si vous vous souvenez, si vous suivez l'émission Kick un coup, lors de l'émission du 1er décembre 2013, on rappelait le contexte du dossier de l'harmonisation, du projet d'harmonisation par la Commission européenne. L'harmonisation du contrôle technique, bien sûr. Et donc, ça portait notamment sur l'augmentation de la fréquence des contrôles techniques et bien entendu sur l'introduction des deux roues et trois roues motorisées dans le champ d'application du contrôle technique. Donc. Et si vous vous souvenez, ce texte européen était en fait basé sur des dossiers qui étaient transmis, et je mets entre parenthèses, aimablement, par la société DECRA. DECRA avait fourni trois statistiques construites par cette société, par DECRA, société allemande, qui avait réalisé une étude sur un échantillon de 700 accidents survenus en Allemagne. Et donc, on était dans la situation où c'est une étude nationale sur l'Allemagne, que c'est sur ce dossier donc que DECRA s'appuyait pour faire imposer à l'ensemble des 28 pays une nouvelle directive sur le contrôle technique. Donc voilà comment ça s'était projeté. Vous vous souvenez que ce dossier s'était terminé par le fait que la Commission européenne avait repoussé jusqu'à 2022 l'instauration du contrôle technique et surtout qu'elle laissait aux pays le soin de voir si c'était ou non à appliquer selon les statistiques. Alors aujourd'hui, ça n'est plus au niveau de l'Europe que l'idée est remise sur le tapis de l'actualité, hein. C'est une décision franco-française, et c'est le CISR, donc Comité interministériel de sécurité routière, qui a, parmi l'une des nombreuses mesures, projeté de rendre obligatoire le contrôle technique par le biais de l'instauration de ce contrôle lors de la revente des motos. Alors la France va se mettre dans les clous vis-à-vis de l'Europe en abandonnant la limitation des 100 chevaux. Hein. Elle était dans l'illégalité depuis 1997. Et puis là, elle va devancer les décisions européennes sur l'aspect contrôle technique moto. C'est assez surprenant. Et donc, j'ai pu écouter une émission qui passait sur LCP, donc la chaîne parlementaire, LCP Assemblée Nationale. Donc on ne peut pas la taxer de parti pris ou de fausses informations, hein, c'est ça qui est intéressant là-dedans. C'est une émission qui a été diffusée le 2 décembre dernier, et c'est le journaliste François Goulin qui apportait des éléments chiffrés sur les lobbies installés à Bruxelles. Et donc, François Goulin mettait en évidence que les lobbyistes sont entre 15 000 et 30 000 pour tenter de faire pression sur les élus européens, et plus particulièrement sur les 28 commissaires européens. Et donc, ces 28 commissaires travaillent tous les jours. Et il donnait un autre chiffre, ce journaliste, François Goulin. Volkswagen a déclaré faire travailler plus de 40 lobbyistes, donc rien que Volkswagen, 40 lobbyistes, et dépenser plus de 3 millions d'euros par an pour influencer les décisions européennes. Donc c'est intéressant de voir un peu comment ça se passe, parce que quand nous, enfin je veux dire simples citoyens, et quand nous, les motards, on a été au niveau de l'Europe, eh bien on avait la FEMA, et c'était à peu près tout. Parce que les associations de motards sont représentées au niveau de l'Europe au travers de la FEMA. Et la FEMA, bah, c'est pas beaucoup de personnes. Hein. On ne peut pas comparer ça aux 15 000 ou 30 000 lobbyistes qui travaillent tous les jours. Et donc ça donne un peu une idée de comment ça se passe. Alors, l'autre information qui est intéressante à retirer de ce reportage de François Goulin, c'est qu'il y a eu débat donc, avec journalistes et députés. Et ils étaient parvenus au fait de constater qu'il n'y a pas seulement que du lobbying à Bruxelles, mais c'est aussi au niveau de chaque pays. Parce qu'évidemment, la France, quand elle parle au niveau européen, bah, elle défend ses industries. Alors, ces gens citaient les exemples d'EDF, Total, Arevon, entre autres, qui font un lobbying important pour faire passer leurs idées. Et donc, encore une fois, on fait le rapport pour le consommateur et le citoyen lambda, eh ben, on est loin de pouvoir être représenté de la même manière et de pouvoir avancer nos arguments. Alors, quand le journaliste pose la question aux députés, ben, pourquoi ces lobbies, ces lobbies et ces lobbyistes, eh ben, tout simplement, on peut le comprendre, hein, c'est normal, les députés ne sont pas pointus dans tous les domaines, parce qu'ils parlent tant de l'agriculture que de la technique, que de la culture de la patate, que enfin, du poisson, etc., etc. Et donc, les lobbies permettent d'apporter des éléments très concrets, très chiffrés, ce qu'on peut comprendre. Par contre, le seul problème, c'est justement que ce sont les industriels les seuls à être lobbyistes. Le consommateur n'est pas lobbyiste. Et donc là, il y a un décalage qu'on comprend assez aisément. Et pour ce qui concerne le contrôle technique de la moto, donc c'est au niveau de Paris que ça se décide, et donc notre camarade Emmanuel Barbe, le DSCR, là, veut introduire ça très, très prochainement. Et donc on imagine bien, parce que, et on l'a déjà vu, on en a parlé le mois dernier avec l'article paru dans Le Parisien, où Le Parisien faisait un état d'un sondage créé, payé par Décra. Et la conclusion était 81% des personnes interrogées sont d'accord pour qu'il y ait un contrôle technique à la revente de la moto. Donc voilà quelques éléments de perception de comment ça se passe au niveau Europe et au niveau national quand l'industriel veut faire passer son message. Alors, pour ce qui nous concerne, on a bien vu que Décra n'a pas lâché l'affaire, c'est pas passé par la porte, il passe par la fenêtre, hein, c'est pas passé au niveau européen, il passe par le niveau national, les instances nationales. Et si vous avez un peu décortiqué l'actualité, vous avez pu voir que les concessionnaires, les constructeurs moto sont tout intéressés autant par le gâteau représenté par le contrôle technique. Et l'autre point que j'aime mettre en évidence dans cette affaire, c'est que on va, au travers de l'instauration du contrôle technique, protéger entre guillemets le consommateur, puisque c'est au moment de la revente ou de l'achat de la moto, mais on ne parle plus de protéger le motard et de faire de la sécurité routière. C'est quand même assez intéressant de voir ce contraste là et de créer son avis sur le sujet. Voilà, je vais peut-être pas faire plus long.
Non, merci Guy, c'est très intéressant. D'ailleurs, il y a aussi tout un article sur le dernier Motomag, là, sur le contrôle technique, où on voit aussi que ça rapporterait bien 6 millions d'euros à l'État. C'est pour ça qu'ils sont intéressés.
Et c'est pour ça qu'ils sont très intéressés par tout ça. Alors, je conclue en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous.
Merci Guy, toi aussi.
Merci Guy,
pas
d'oreille.
À bientôt. Musique. Get back now.
driving, babe. I'm on the road. About too long, I gotta get back home. I got love for you, I need love from you too. Cause I've been driving, baby. I've been driving, baby. I've been driving, baby.
Vous êtes bien toujours sur Radio Campus Kikinkoul, le magazine de la moto tous les dimanches de
11h. Et des motardes.
Et des motardes aussi, bien entendu. On en aura sûrement la semaine prochaine. Et en parlant motard, vous avez peut-être entendu, il y a Daniel Torel, de la FBF, la Fédération des Bikers de France, qui nous a rejoint encore en cours d'émission. Bonjour Daniel.
Bonjour à toutes et à tous, puisque bah, y a des motardes maintenant, bienvenue avec elles, puisque même à la FBF, il y a aussi un groupement, les Amazones.
Les Amazones.
Donc ce sont des bikeuses françaises.
Et quelle proportion à peu près?
Elles sont à peu près 3, aux alentours de 300-350 pratiquantes, roulant quotidiennement en gros cylindre.
En pourcentage par rapport aux adhérents
Un petit peu moins de 10%.
Ouais. C'est déjà pas mal.
Un peu moins que la moyenne nationale.
350 membres, quand même, c'est pas mal.
Ouais, mais c'est tout récent.
Ok, tu nous parles de quoi aujourd'hui, Daniel ?
Mais il y a plein de sujets qui nous intéressent. On a parlé il y a quelques instants du contrôle technique. Vous rappelez aussi que la FBF a manifesté, avec nos amis de la FFMC, d'ailleurs, à des dates différentes, mais à peu près pour les mêmes problèmes constatés. N'oubliez pas que nous sommes, nous, des hors-la-loi, puisque nos motos, elles sont customisé. Bien. Mais je vais parler surtout de ce qui anime la passion des bikers, c'est-à-dire des brutes au grand cœur, on va dire ça comme ça. Enfin, telle est l'image qui est perçue chez des gens qui ne nous connaissent pas. Le Toy Run. C'est la période de Noël. Et ce week-end, donc, enfin, surtout samedi, l'ensemble des bikers, surtout sur la région parisienne et dans quelques régions de France, avons collecté pas mal de jouets. Et entre autres, nous sommes rendus à l'hôpital Trousseau à Paris pour faire une petite animation avec des tas de gamins qui sont en difficulté ou en souffrance, hélas. On a essayé de rapporter un petit peu de ciel bleu dans ces journées souvent difficiles pour ces enfants, et aussi pour aider un peu les parents en apportant des jouets, en faisant une petite animation, même aussi avec les membres hospitaliers qui ont découvert aussi nos actions. Et c'est une journée qui était riche, riche d'émotions, riche d'enseignements aussi sur les échanges qu'on peut avoir avec des gens en souffrance qui, pendant une, deux, trois heures, ont pu oublier un petit peu ce qui leur pesait au quotidien. Et c'est en cela que le rayonnement de nos actions apporte du sens aussi au niveau humain, surtout une période festive. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on appelle les Toy Run.
Sympa. T'as aussi les 5 ans de la FBF, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Ça donc, fait 5 ans que
on est dans notre
l'association existe ?
Voilà, ça fait donc 5 ans. Nous sommes dans notre 6e année et on va fêter les 5 ans, donc janvier, avec une grosse fête. À l'occasion, on a édité un bijou, une broche or, pour les pionniers, ceux qui ont cru à l'aventure, qui se sont investis, mais sans compter, avec des convictions énormes, ce qui fait qu'on est un peu plus de 3000 membres cette année, donc ça évolue depuis le premier jour, donc on est fiers de ce que l'on représente, de la manière dont on émerge vis-à-vis des médias, vis-à-vis des politiques qui découvrent une population, une culture, une vraie culture, ce qu'on appelle nous la custom culture et la moto modifiée, ce qui nous fait vivre, mais surtout aussi, je le rappelle, c'est entre 60 et 100 000 salariés. C'est un petit peu plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, hors vente de machines, bien sûr. C'est une vraie culture qui est reconnue partout dans le monde, avec nos préparateurs, on en parlera sans doute après, où on s'aperçoit qu'il y a un véritable talent au niveau artisanal, des gens qui sont encore capables de construire des pièces, encore capables de construire des cadres, faire des machines. N'oublions pas aussi que la France était précurseur de la construction de moteurs, il y a bien avant Harley et compagnie. Donc on essaye d'entretenir cette culture qui est la nôtre.
Tu dirais qu'il y a un engouement pour la custom culture ?
C'est une manière de rouler différemment avec une véritable identité. C'est-à-dire que globalement, le monde du deux-roues, c'est un petit peu homogénéisé, avec des choses un petit peu plastiques, un peu artificielles. Quand je dis plastique, au niveau cosmétique, c'est-à-dire qu'on vous met de la peinture tous les ans. Maintenant, on a transformé la moto comme un produit de consommation courante, voire un produit jetable.
C'est un produit jetable.
Voilà. Et ce qui est dramatique, c'est que le rêve ultime, on en discutait avec un de nos consultants, le rêve ultime, nous, c'est que demain, on ait une machine avec une combustion, peu importe laquelle, qui nous permettrait de nous exonérer de toute considération pétrolière et autres, de pouvoir garder une moto du premier jour du permis jusqu'à la fin de ses jours et de la transmettre avec toute l'évolution possible et quel que soit son mode d'énergie. Parce que bon, là, effectivement, on est obligé de se caler sur les stations-service et compagnie, ce qui est quand même aussi un frein à notre liberté. Donc l'ultime, c'est d'avoir un produit comme ça, ultime, sans contrainte pétrolière ou autre.
Pourquoi pas, bonne idée.
Non, mais la liberté commence par ça.
Et l'évolution réglementaire, parce que on est quand même, justement, on le verra après avec le sujet Café Racer, les prépas, pour les faire rouler, il faut une homologation pour certaines. Et donc, comment justement, vous voyez l'avenir ?
Nous sommes nourris d'espoir, ça c'est évident, mais on constate des choses un petit peu contradictoires. Je vous ai rappelé, il y a quelques temps, tous les ans, on fait la nuit des chevaliers de la custom culture, c'est-à-dire les artisans, les artistes qui sont encore capables de construire de A jusqu'à Z une moto. Et globalement, en France, ces gens-là qui payent des impôts, des taxes, j'en passe et des meilleurs, ne peuvent pas. Ils vous fabriquent un produit, ils vous le vendent, mais vous ne pouvez pas l'utiliser.
Non, puis en plus, l'administration leur fout des bâtons dans les roues, mais c'est abominable.
Oui, à côté de ça, il y a des gens qui importent des machines qui se disent constructeurs, dans lesquelles mettent juste un autocollant, et là, par contre, c'est parfaitement légal. Enfin, il y a un côté schizophrène qui est typique de la France, qui est assez étonnant. Ceci étant, on pourrait être pessimiste en disant « ça y est, notre culture est morte ». Ben non, nous sommes un peu gaulois, hein, Goscinny hors des eaux, on fait Astérix et Obélix, donc on est un petit peu dans ce registre-là de résistance à la connerie, parce que nos hommes politiques qui nous découvrent se disent « ah mais je savais pas, mais je savais pas, mais je savais pas, mais je savais pas ». Donc, on se bat avec l'FBF, nos amis de l'FFMC qui ont quelque part aussi peu ou prou les mêmes préoccupations, parce qu'au bout du bout, même si on ne suit pas les mêmes chemins, on n'a pas les mêmes voies, on utilise les mêmes routes et on a les mêmes machines. Donc on a espoir en l'intelligence retrouvée de nos politiques. Mais il faudra chercher à mon avis longtemps. Néanmoins, j'y crois beaucoup dans ce bon sens qui, à un moment donné, redonnera du sens. Je crois que le tout consumériste est mort. Il faut arrêter de faire consommer de la moto comme n'importe quoi. Et à un moment donné, il faut revenir à des choses simples. Voilà.
On partage tout à fait ton avis. D'ailleurs, Christophe voulait nous parler du Café Racer Festival qui avait eu lieu en Allemagne. Alors, avec les motos préparées.
J'ai posé la question parce que c'est directement lié effectivement au sujet que je vais traiter. En fait, on peut mettre ça à l'agenda de l'année prochaine puisque c'est un événement qui se déroule chaque année. Donc j'en ai parlé tout à l'heure à 2 heures de route de Strasbourg. C'est l'édition donc du Café Racer Festival Glemsec 101. Alors pourquoi 101? Parce qu'en fait c'est le lieu sur lequel a été créé donc cet événement il y a 10 ans, il y aura 10 ans l'année prochaine, donc 101 ans, après la création du site, du lieu. La particularité, c'est que c'était un circuit routier en forêt. Bon, alors évidemment, pour des raisons de sécurité, les courses aujourd'hui n'ont plus lieu, mais par contre, sur ce circuit, une ligne droite et une épingle ont été remis au goût du jour pour faire des runs, donc des courses de vitesse sur 200 mètres, où on aligne justement des préparations Et c'est pour ça, tu disais là tout à l'heure, qu'on trouve des Français qui viennent avec des machines improbables.
Avec une BM notamment, qui est exposée au salon de la moto.
Qui vous est présenté par le détail, hein, donc un moteur boxer d'une R100 RS de 78, la culasse d'une GS, la boîte de vitesse d'une R100R. Enfin, je vous passe les détails. Et c'est une moto qui est tout le temps en évolution. Elle va bientôt fonctionner au protoxyde d'azote, hein,
c'est
le gaz hilarant.
Le gaz hilarant, ouais.
Voilà.
C'est drôle, moi.
Et alors, cette moto, mais c'est symptomatique quand même de la qualité professionnelle de certains préparateurs français. Elle a été repérée par le responsable du marketing de BMW Motorrad, qui l'a invité, donc, je vais donner son nom quand je le retrouverai, qui a invité donc, le préparateur donc, à cet événement. Et donc, il est tellement emblématique maintenant de l'événement que les runs sont qui va battre
ouais. Et d'ailleurs il s'est fait battre cette année par un 1300 XJR préparé par des Italiens, mais alors super boosté quand même,
voilà,
hein. Parce que avec le gaz hilarant il sort 180 chevaux de son flat twin,
tout à fait, enfin c'est le projet
hein. Ouais. Bon, voilà, il était à plus de 100 chevaux déjà.
Après voilà, il faut adapter aussi. Alors il parle de boîte de vitesse, c'est à boîte de vitesse racing, c'est 2000 euros de plus,
surtout qu'il a d'autres projets, donc
exactement, hein, donc mais vous découvrirez donc dans l'article tous ceux qui se sont essayés avec des motos aussi improbables qu'une BM de la ex-Polizei contre lui. Mais là, c'est en l'occurrence un Espagnol qui l'a battu. Et donc, il remet son titre en jeu l'année prochaine. Et donc, il sera présent avec son boxeur là, particulier, hein, donc en mode hypercute tel qu'il est décrit dans l'article.
C'est vrai, tout à l'heure, Daniel, tu disais qu'il y avait pas mal de préparateurs dans la région.
Alors, la région du Nord, c'est une région de talents et de motocistes ou d'ex-motocistes. Et là, on a retrouvé des jeunes générations, entre autres un nouveau chevalier de la Custom Culture qui est là, qui est du côté de Landa, qui fabrique des motos à partir des produits récupérés, etc. Qui a une belle, très très belle qualité de conception. Mais on a aussi un vieux de la vieille, sans que ce soit péjoratif, c'est Riton de Full Motorcycle, qui est une légende vivante de la préparation des moteurs américains, Harley et autres, et qui a un talent inouï. Mais on a aussi Seb Cycle aussi, qui fait des choses remarquables. On avait un jeune gars, un nos membres, Jordan, qui hélas s'est tué, qui avait une qualité de préparation ahurissante. Donc on a énormément de talent. On est fiers de notre région de cette qualité-là.
Tout à fait. Il y a Café Racer aussi à Dèvres qui fait des choses sympas.
Tout à fait.
On l'a rencontré récemment. Voilà. Christophe,
un petit mot. J'ai retrouvé son nom. Ouais. C'est Sébastien Lorenz.
Voilà, donc, le Français qui préparait cette machine.
Absolument. Et donc, si le cœur vous en dit, il y a 40 000 personnes qui chaque année y vont. Et sincèrement, il y a des concerts. C'est l'ambiance certainement authentique, telle que Jean-Yves nous l'a décrite tout à l'heure. Donc, ça donne vraiment envie d'y aller.
D'accord.
Alors,
merci Christophe.
Une petite chose, on y sera parce que la Fédération des Backers de France a son dragster. Aussi avec son double moteur Norton de 1964, qui était le premier café racer, premier dragster créé pour la compétition. Donc on y sera.
D'accord, nous aussi on y sera. Merci Jean-Yves.
Oui, mais à la prochaine.
Merci Christophe. Hein, merci Daniel pour toutes ces infos.
Merci.
Merci Laurent pour cette programmation musicale de qualité, encore une fois.
À votre service.
Et
merci,
on vous dit à dimanche prochain.
Et on dit au revoir.
Au revoir.
Au revoir les backers.